Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 22 décembre, la France se prépare à l'arrivée des vaccins. En théorie, les premières injections pourront démarrer dès dimanche. Nous ferons le point sur la logistique, la sécurisation des plateformes qui peuvent être aussi une proie pour les voleurs. Et nous serons avec la responsable du Cinerpa qui regroupe 7000 EHPAD et résidences privées pour personnes âgées. Un début de polémique autour du projet de loi du gouvernement sur l'état d'urgence sanitaire. La droite et le Rassemblement national s'indignent d'une possibilité d'exiger un vaccin pour se déplacer alors que celui-ci n'est pas obligatoire. Dans RTL Midi aussi, l'usine Toyota de Valenciennes va fermer dans 3 quarts d'heure. C'est la conséquence du blocus de la Grande-Bretagne. Il n'y a plus assez de pièces détachées pour fabriquer les véhicules. Nous saluerons aussi l'initiative solidaire de 2 jeunes filles de l'Esnevin dans le Finistère. Elles vont livrer des colis pour les aînés. Et vous, vous feriez quoi avec 200 millions d'euros? Le gagnant du pactole de l'euro-million qui a touché son chèque, lui, n'a pas l'intention de changer ses habitudes. On a du mal à le croire. La météo, bonjour Nadia Neffer.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Alors c'est l'hiver en théorie, mais alors
oui,
en réalité c'est l'automne au nord et le printemps au sud.
Cet après-midi, on aura une zone pluvieuse sur les régions de la moitié nord avec des pluies faibles et intermittentes, et des pluies parfois plus marquées sur le nord de la Bretagne, sur la Normandie, sur les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, avec un vent sensible sur les côtes bretonnes du Poitou-Charentes et du Limousin jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le temps s'assèche et devient un peu plus lumineux. Plus au sud, l'après-midi s'annonce agréable avec de larges éclaircies. Côté température, une douceur exceptionnelle pour la saison. Les maximales grimpent entre 13 et 16 degrés en général, jusqu'à 17-18 au sud de la Garonne, 19 à 20 degrés sur le Pays Basque.
Comme tous les jours, vous prendrez la parole à 13h sur RTL avec Pascal Pro. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Quels sont les sujets qui vous inspirent?
Un vaccin pour se déplacer. Vous imaginez la polémique. Et ça, ce sera quasiment notre sujet numéro 1 du jour. Emmanuel Macron qui a accordé un entretien à l'Express. Vous pourrez réagir. Le chef de l'État s'inquiète de la crise d'autorité, notamment, qui favorise le complotisme. Et puis, vous pourrez réagir aussi à la plainte contre 6 médecins, dont Didier Raoult et Christian Perron. Et puis... La question que vous avez posée, qui est essentielle. Et vous, qu'est-ce que vous feriez avec 200 millions d'euros?
On va en reparler, je sens.
Bien sûr, bien sûr.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Cap sur le vaccin. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a choisi la médiatisation avec une injection sous l'œil des caméras. C'est une façon de convaincre les sceptiques. Ici, après le feu vert de l'Agence européenne du médicament, la campagne doit démarrer en principe le 27 décembre. C'est un immense défi logistique. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a visité ce matin une plateforme à Chanteloup-en-Brie, en Seine-et-Marne, là où les vaccins Pfizer vont arriver. Comment ça va s'organiser, Sophie Jousselin?
Alors, pour cet essai à blanc, mais en conditions réelles, ce sont des petites fioles vides qui sont arrivés sur cette plateforme logistique. Mais dans les jours à venir, les vrais vaccins feront le même trajet depuis la ville belge de Purs, près d'Anvers, où se trouve le site de production de Pfizer. Les doses voyageront à moins 80 degrés dans de la neige carbonique. Et une fois arrivées, elles seront stockées à la même température dans des grands congélateurs ultra sécurisés et bardés d'alarmes. Avant de partir vers les établissements pour personnes âgées, les doses seront décongelées et la vaccination devra alors intervenir impérativement dans les 5 jours, sinon les produits seront perdus. Le but est de vacciner 1 million de personnes avant fin février, explique Olivier Véran.
Nous aurons quelques dizaines de milliers de doses dans les prochains jours. À la fin du mois, normalement, nous aurons un peu plus d'1 million de doses, en revanche, qui seront livrées. Et ensuite, début janvier, à nouveau plusieurs centaines de milliers de doses. Et en février, un peu plus d'1 million de doses. Donc, nous devrions avoir suffisamment de vaccins entre décembre, janvier et février pour pouvoir lancer et réaliser la campagne de vaccination de quelques 1 million de personnes dites prioritaires dans les établissements collectifs âgés.
Il y a sur tout le territoire 6 plateformes logistiques, comme celle visitée par le ministre de la Santé ce matin, et un peu plus de 100 super-congélateurs répartis dans les hôpitaux.
Défi logistique, mais aussi défi sécuritaire. Interpol redoute des vols de vaccins au moment de l'acheminement. Michel Lavaux, contrôleur général et porte-parole de la police nationale, dévoile une organisation sur mesure.
C'est d'abord travailler à analyser la vulnérabilité des sites qui seront concernés par la chaîne logistique de la campagne de vaccination, donc les sites de stockage, d'acheminement et de distribution. Notre posture consistera également à raccourcir les délais d'intervention de nos patrouilles de terrain. Par exemple, exemple, quand on a besoin de la police, on fait le 17, bah, bien sûr qu'il y aura une chaîne de priorisation des appels 17 qui concerneront tel entrepôt ou tel centre de vaccination quand ils feront appel à la police. Il faudra que nos patrouilles de terrain soient le plus rapidement possible sur site pour intervenir. Nous serons également présents sur Internet et pour enrayer la cyberdélinquance. On peut imaginer que des escrocs essaieront de vendre de faux vaccins, d'inventer des rendez-vous payants pour aller se faire vacciner, ce qui nécessiterait des paiements par Internet. Donc là encore, il faut que chacun ait bien en tête qu'il faut signaler tout ce qui ressemblera sur Internet à des escroqueries en rapport avec la campagne de vaccination.
Michel Lavaux, interrogé par Alice Moreno. Les EHPAD se préparent donc à l'arrivée de ces vaccins. Et nous sommes avec la déléguée générale du CINERPA, c'est le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Bonjour Florence Arnaise-Maumet.
Bonjour.
Alors en théorie, hein, les premières injections pourront avoir lieu dès ce dimanche 27 décembre. Vous avez déjà des volontaires ?
Alors, on a quelques établissements volontaires, effectivement, c'est l'Agence régionale d'Île-de-France, puisque cette première phase de vaccination le 27 décembre, qui sera vraiment très très faible, hein, touchant très peu de cibles, sera sous contrôle de l'Agence régionale de santé, qui détermine en ce moment même les quelques établissements qui auront les premières doses. Mais la vraie campagne touchant les 7000 EHPAD aura plus sûrement lieu à partir du 10 janvier.
Mais vous savez sur quels critères ils vont être choisis, ces établissements ?
Alors, je sais que pour l'instant, les établissements, les unités de soins de longue durée d'Île-de-France, hein, qui sont les établissements accueillant des personnes les plus vulnérables du secteur public, vont être une cible prioritaire. Également quelques établissements publics hospitaliers, mais également quelques établissements privés, puisque nous-mêmes, nous avons quelques établissements qui ont déclaré être volontaires pour commencer la vaccination dès la semaine prochaine.
Bon, mais vous, ce que vous attendez d'abord, c'est un guide médical que doit vous fournir le ministère de la Santé, c'est ça ?
C'est ça, nous sommes dans la semaine cruciale de diffusion de l'information. Hier, nous avons obtenu donc l'autorisation de mise sur le marché qui déploie un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, nous attendons un guide dont nous avons déjà eu le projet, qui est un guide d'une quarantaine de pages détaillant toute l'opération, depuis le recueil du consentement, en passant par la visite de médicale pré-vaccinale jusqu'à l'acte de vaccination. Donc un guide méthodologique très important que nous attendons aujourd'hui. Puis nous attendons dans les 48 heures enfin un avis de la commission de vaccination de la Haute Autorité de Santé qui devrait intervenir avant le 24 et qui là déclenchera les opérations, puisque c'est dans ce document que nous aurons l'ensemble des indications, contre-indications qui vont nous permettre de diffuser l'information.
C'est un protocole qui vous paraît un peu lourd, ce guide médical de 40 pages ?
Eh bien non, c'est un guide qui, au contraire, est très assez performant hein, quand même, hein, très méthodique et qui aborde toutes les parties. C'est au contraire l'outil dont nous avions besoin, nous l'appelons de nos voeux et nous l'attendons avec impatience. Nous l'avons déjà, encore une fois, nous avons visé le projet et nous savons que c'est au contraire le document qui va nous permettre de déployer toute l'information vers les établissements, hein, le recueil du consentement. On attendait un avis du Comité national d'éthique, puisque la spécificité des EHPAD, c'est d'avoir des populations qui parfois ne peuvent pas donner elles-mêmes leur consentement. Donc il y a toute une procédure qui est mise en place dans ce protocole. La visite pré-vaccinale, très importante, hein, qui va définir les conditions, les indications et les contre-indications, si la personne a été ou non atteinte du Covid, si la personne a des pathologies liées, si elle a des risques allergiques, bien sûr. C'est ce qu'on va évidemment regarder. Et puis les personnes qui peuvent vacciner, hein, dans ce guide, c'est également indiqué, hein, les médecins traitants, médecins coordonnateurs des EHPAD, les infirmières sous contrôle des médecins. Donc au contraire, ce guide est de nature, qui va même jusqu'aux aiguilles à utiliser, est de nature à rassurer les directions d'établissement pour l'organisation dès la semaine prochaine.
Donc c'est extrêmement précis, mais au fond ça va quand même prendre du temps. Vous pensez commencer vraiment à grande échelle à peu près à quel moment ?
À partir du 10 janvier, hein, nous nous mettons en opération déjà depuis 2-3 semaines pour être vraiment opérationnel et recevoir la grande majorité des doses entre le 10 et le 20 janvier. Hein, et nous demandons vraiment au pouvoir public un étalement du dispositif, hein, que nous puissions de façon filante organiser la vaccination, déjà parce que tout le monde ne donnera pas son consentement en première intention. Il faut donc qu'il y ait des rappels réguliers tout au long des 2 prochains mois, janvier, février, et à ce prix-là, nous réussirons la campagne de vaccination.
Et tout ça va prendre du temps. Merci, on l'entend. Merci Florence Arnaise-Maumet du CINERPA d'avoir été l'invitée de ce journal. Quant à cette mutation du virus observée en Angleterre et qui vaut à nos voisins d'outre-Manche d'être isolés du reste du monde ou presque, le professeur Lina, virologue et membre du conseil scientifique, s'est voulu rassurant ce matin sur RTL.
Ce virus qui vient de Grande-Bretagne Bretagne présente un certain nombre de caractéristiques qui en font un virus un petit peu différent de celui qui circule actuellement en France, mais qui présente beaucoup de similitudes avec celui-ci. Et en particulier, il n'est pas plus pathogène, il ne donne pas des infections plus graves, il se transmet apparemment un peu plus facilement, mais c'est les mêmes groupes d'âge qui sont touchés. Il y a énormément de similitudes. La vraie question, c'est de savoir, premièrement, est-ce que ce virus, quand il rentrera en France, parce qu'à un moment donné, il est probable qu'il se mettra à diffuser en France, eh bien, on sera en capacité de le maîtriser avec les outils que l'on a. Et la deuxième chose, qui est une question sur laquelle aujourd'hui on a plutôt des signaux rassurants, mais il faut qu'on termine de consolider ça, c'est qu'en termes de vaccination, il n'y aurait pas trop de différence entre ces deux virus, qui fait que les vaccins, normalement, devraient donner une protection qui est la même. On a besoin d'avoir quelques données encore. Je pense qu'on les aura d'ici la fin de la semaine.
Le professeur Lina, interrogé ce matin par Jérôme Florin, le laboratoire allemand BioNTech se veut rassurant lui aussi. Il se dit capable de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni. Dans un instant, dictature sanitaire. C'est le hashtag du moment sur les réseaux sociaux avec un début de polémique.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
La polémique du moment sur l'état d'urgence sanitaire. Le Rassemblement national et la droite dénoncent déjà un état d'urgence permanent, car le projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires prévoit une restriction des libertés, en particulier pour ceux qui n'auront pas été vaccinés. Or, à aucun moment, Vincent Derosier, les autorités n'ont dit que la vaccination était obligatoire.
Oui, et sur ce point, le discours au gouvernement n'a pas changé. La vaccination ne sera pas obligatoire en France. Ce qui interroge, c'est ce projet de loi déposé hier en Conseil des ministres, dont l'objectif est d'établir un cadre juridique durable pour lutter contre toutes les crises sanitaires à venir, pas seulement celle du Covid. Ce qui signifie à terme ne plus passer par le Parlement pour enclencher l'état d'urgence sanitaire, voté 4 fois, on le rappelle, depuis le début de la crise. Et il y a un article qui concentre toutes les critiques, je vous en lis un court passage. Le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès au transport ou à certains lieux, à la présentation des résultats d'un test de dépistage, y compris à l'administration d'un vaccin. Alors l'opposition du Rassemblement national à la gauche dénonce une dictature sanitaire, une façon détournée de rendre le vaccin obligatoire en privant les non-vaccinés de toute liberté de mouvement. Même dans la majorité, cet article sème le doute. Un cadre influent confie être totalement opposé à cette modification du droit. Démocratiquement, dit ce membre de la majorité, il faut continuer de saisir le Parlement. Le débat s'annonce très tendu, en tout cas au Parlement. 2 jours avant Noël et en plein débat sur la stratégie vaccinale, l'exécutif s'offre une nouvelle polémique et donne aux anti-vaccins des raisons de douter.
Vincent Derosier, la Grande-Bretagne à l'isolement. L'Europe doit dire dans la journée si elle prolonge ou pas les mesures de restriction à cause de ce fameux virus mutant. Berlin, en tout cas, va maintenir la fermeture des frontières. Et ça a déjà des conséquences, notamment dans la construction automobile. Toyota va suspendre l'activité de 3 usines, 2 en Angleterre, l'autre à Valenciennes. Dans moins d'une heure, Emmanuel Michel, vous êtes sur place pour RTL.
Ici à Onin, près de Valenciennes, les salariés sont dans l'incertitude. À partir de 13h20, l'usine Toyota sera à l'arrêt, au moins jusqu'au 28 décembre. Et cela inquiète Olivier, qui s'apprête à regagner son poste.
Malheureusement, oui, la situation sanitaire fait que ça devient compliqué pour toutes les entreprises. Donc on espère que le blocus ne durera pas très longtemps et qu'on pourra reprendre la production très rapidement.
Pour que l'activité reprenne, il faudra que le site soit réapprovisionné. Il manque des pièces pour assembler des voitures, des toits panoramiques et des moteurs, entre autres. Des pièces fabriquées en Grande-Bretagne. Frédéric, cadre chez Toyota.
La production de marchandises n'est pas remise en question du tout. C'est vraiment l'approvisionnement. Donc c'est à l'Angleterre de se préparer aussi sur le sujet. On sait que pour l'instant, ils ne savent pas trop comment ils vont s'y prendre. Donc, à voir.
La direction a prévu de communiquer demain aux salariés. Elle pourrait annoncer un prolongement de l'arrêt de l'activité si l'usine n'est pas approvisionnée.
La réforme des retraites est devenue un serpent de mer et sera sans doute repoussée au prochain quinquennat. Mais le comité de suivi des retraites alerte tout de même sur le déficit du système, plombé par la crise du Covid et sous-financé pour les 25 prochaines années. Il faudra sans doute prendre des décisions impopulaires, comme par exemple, Armelle Lévy, une baisse des pensions pour les actuels retraités.
Oui, parce que pour financer le système, il faut soit augmenter les cotisations, impossible, dit le comité, parce que dans le privé, on est déjà au plafond, soit retarder l'âge de départ à la retraite, mais à court terme, cela conduira mécaniquement à augmenter le chômage, prévient encore le comité. La troisième solution, c'est donc de baisser les pensions des retraités actuels et futurs, parce que le niveau de vie des retraités aujourd'hui est plus élevé que celui des actifs, une exception en Europe. Mais baisser les pensions, ce n'est pas la peine d'y penser, le répond d'emblée Pierre Herbs, le président de la Confédération des retraités.
C'est une très mauvaise piste que de dire qu'il faut que les retraites baissent. Lorsque vous êtes en activité, si vous avez une baisse de vos revenus, vous avez un espoir d'une amélioration un jour. Quand vous êtes retraité, si on vous ampute votre retraite d'un certain montant, vous n'avez aucun espoir de revenir au niveau antérieur. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est complètement inacceptable. Et puis, des ponctions, on a déjà eu. Aujourd'hui, les retraités sont absolument pas d'accord pour qu'on vienne amputer leur retraite. Ni celle d'aujourd'hui, ni les futures. Hein.
Le comité de suivi des retraites dit quand même qu'à terme, il faudra bien décider d'augmenter les ressources pour maintenir le niveau des pensions actuelles ou au contraire baisser un peu les retraites parce que l'État a besoin d'argent par ailleurs. Pour l'instant, Jean Castex à Matignon précise juste qu'il prend note de ce rapport.
Oui, mais on n'a pas fini d'en parler. Merci Armelle. Les recherches se poursuivent activement dans le Tarn, 6 jours après la disparition d'une jeune infirmière de 33 ans, mère de famille. Les enquêteurs affirment ne privilégier aucune hypothèse pour l'instant. Une battue sera organisée demain matin avec les habitants et les gendarmes. Nous dit notre correspondant Patrick Hisson. Une pause et dans un instant, gros plan sur une belle initiative solidaire en Bretagne.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Et comme tous les jours dans ce journal, nous saluons en cette période de Noël une initiative solidaire qui apporte un peu de chaleur et d'humanité en ce moment si anxiogène. Nous partons à Lesnevin, dans le Finistère, où l'association Joyeux BZH, montée par 2 jeunes femmes, organise depuis 4 ans une fête le jour de Noël avec les anciens. L'an dernier, 80 personnes avaient participé à un goûter. Et nous sommes avec Marine, l'une des 2 organisatrices. Bonjour.
Bonjour Christelle.
Cette année, pas de goûter, mais il y aura quand même un rendez-vous. Comment allez-vous faire ?
Oui, alors, situation sanitaire oblige, on va pas pouvoir tous se réunir comme chaque année depuis 3 ans. Bien sûr, l'idée, c'était de surtout pas laisser tomber nos participants. On a voulu organiser quand même quelque chose et on s'est dit qu'on allait confectionner des colis et aller les déposer devant la porte de chacun de nos participants le 25 décembre.
Alors, dans ce petit colis de Noël, c'est un colis 100% breton, hein ?
Absolument, colis 100% breton, plein de douceur bretonne. Ce sera pas seulement de la nourriture, mais des surprises, des porte-clés, et puis bien sûr des chocolats et d'autres surprises que je leur laisse découvrir.
Donc vous allez distribuer les colis, mais j'imagine que vous allez passer un petit peu de temps avec eux à chaque fois, parce que là, l'année dernière, il y avait une ambiance de folie hein, à votre goûter. Je vous propose de le réécouter. Les copains d'abord, mon cœur amour s'est pris au piège de tes grands. On les entend, toutes ces personnes heureuses d'être là, heureuses d'être ensemble, de chanter ensemble. Là, évidemment, ça vous prive de ce moment, j'allais dire, d'intimité et de fête. Donc, comment allez-vous restituer cette chaleur humaine ?
Oui, c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre tout ça et de se rappeler que on était réunis, on était beaucoup, on a atteint presque les 80 participants l'année dernière et voilà, on pourra malheureusement pas être tous ensemble, mais on va essayer de passer un maximum de temps avec chacune des personnes tout en respectant les gestes barrières. On déposera donc les colis devant la porte de chacun, puis on s'éloignera bien des portes le temps de sonner et de pouvoir leur parler un petit peu à distance et puis surtout le jour de Noël, voilà, de sourire un petit peu avant de se réenfermer chez eux.
Et vous, Marine, vous êtes une très jeune femme hein, et quand vous avez lancé cette initiative en 2017 avec votre amie, vous n'aviez pas 20 ans, je crois. Qu'est-ce qui vous avait donné cette idée au départ ?
Alors, on s'était réunis avec Claire, c'était je crois 5 jours avant Noël. On s'est donné ce défi un petit peu fou. On se rendait compte, je pense, qu'on était chanceuses l'une comme l'autre de passer Noël entourées de nos familles. Mais on avait néanmoins l'habitude de voir toutes ces personnes dans nos communes respectives qui se promenaient toutes seules, à qui on discutait l'une comme l'autre en faisant nos courses, en les croisant à la boulangerie ou à la poste. Puis ça nous a donné envie de faire une action et puis aussi de se lancer un petit défi personnel qui était d'organiser cette journée en moins de 5 jours et surtout avec 0 budget. Donc ça a été vraiment un travail d'équipe.
Bon, et on espère que l'année prochaine, bah, il y aura de nouveau un goûter de Noël avec des chants.
Bien sûr, on y croit dur comme fer, il va falloir. C'est vrai que tous nos participants nous appellent pendant l'année, on garde contact énormément avec eux et ils nous appellent plusieurs mois avant pour vérifier que l'initiative aura bien lieu. Donc c'était pas plaisant cette année de leur dire que non, on pourrait pas organiser la journée de Noël, mais on leur dit que on sera là cette année derrière leur porte et que l'année prochaine on se réunira à nouveau tous ensemble et qu'on chantera tous ensemble.
Merci Marine, merci pour cette belle initiative et joyeux Noël à vous.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Lui, il a déjà eu son Noël à 200 millions d'euros. Le gagnant de la somme record de l'euro-million a encaissé son gain auprès de la Française des Jeux, un retraité du sud de la France qui a des projets généreux. Isabelle Césari, la responsable des relations grand gagnant de la FDJ, était l'invitée d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL.
Heureux, ému aussi évidemment, et puis surtout ravi de pouvoir aider ceux qui n'ont pas eu de chance autour de lui. Ce qu'il m'a confié très vite en fait, c'est qu'il jouait pour pouvoir donner et aider ceux qui n'avaient pas eu de chance dans la vie. Donc c'est ce qu'il va faire. Il envisage de créer sa fondation, qu'il a vraiment à cœur, c'est le domaine de la santé. Il a fréquenté les hôpitaux, il a vu les gens souffrir, les malades, ceux qui les accompagnent. Et il a envie d'aider toutes ces personnes. Donc c'est un peu le bonheur par ricochet.
Il va quand même, j'imagine, se faire plaisir à ses proches.
Oui, alors moi, ce qu'il m'a dit, c'est je me sens monsieur tout le monde. Donc je suis quelqu'un de très simple, j'ai des goûts simples. Mais bien entendu, il pense à ses proches, qu'il va évidemment aider. Mais lui a des goûts très simples et donc il souhaite rester vraiment fidèle à ses valeurs et à ce qu'il aime profondément, qui est le partage. Il aime avant tout le partage. Et
oui, effectivement, il va offrir une voiture à sa fille, faire des travaux dans sa maison où il compte bien rester. Et le regagnant ne change même pas ses plans pour le réveillon, ni ses plats. Le menu, paraît-il, ne bouge pas. J'aimerais bien être une petite souris. Football, la Ligue récupère ses droits. Le tribunal de commerce de Nanterre valide le retrait de Mediapro qui n'a pas payé ses échéances. La Ligue peut commencer à négocier avec de nouveaux diffuseurs pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes. Pascal.
C'est objectivement une liberté entamée si on me demande un passeport de vaccination pour entrer dans un TGV. Objectivement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est légitime? Et là, je vous pose la question, Christelle, parce que je trouve que c'est une bonne question.
Moi, je ne sais pas, à partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire, pour moi, il y a une contradiction assez bizarre.
C'est un argument que vous donnez, mais elle reste non obligatoire, mais effectivement, elle est discriminante, puisqu'il y aura des citoyens de deux catégories. Si j'ose dire, ceux qui seront vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Je vous signale que si vous voulez aller, si vous voulez voyager aujourd'hui dans une compagnie australienne, vous êtes obligé d'avoir un test de vaccination. Si vous devez partir en Europe, en Espagne.
Un test PCR.
Non, oui, alors.
C'est pas la même chose.
Oui, la compagnie australienne met en place la vaccination, précisément. Oui. C'est encore autre chose. Il y a aussi les tests PCR. Mais en Australie, il y a une compagnie qui commence à dire rentrerez dans mon avion si vous êtes vacciné.
Bon. D'accord.
Et ça va se généraliser. Donc moi, je pose la question. Et pourtant, je suis vraiment attaché aux libertés. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est légitime? Chacun pense... C'est un bon débat pour le soir de Noël, vous voyez.
Ça va mettre de l'ambiance autour de la dinde.
Je trouve que... Mais si le vaccin est sans danger, quoi, il l'est d'ailleurs. Ouais. Il l'est, je veux dire, sans danger. Est-ce qu'il est à 100% efficace? Ça, j'en sais rien. Encore. Mais on peut se réconcilier avec la médecine sur le fait qu'il est sans danger, je l'espère. Allez, en tout cas, ça va être formidable d'en parler.
À tout de suite, Pascal. La météo, Nadia Neffer, jusqu'à 20 degrés à Biarritz. Tout à l'heure, c'est le printemps.
Douceur exceptionnelle des maximales printanières, 13 à Dijon, 14 à Montélimar, 15 à Nîmes, 16 à Nevers ou encore à Paris, 18 à Bordeaux et donc, vous l'avez dit, jusqu'à 20 à Biarritz. De la douceur pour tout le monde, donc avec un ciel gris et des pluies faibles dans la moitié nord, avec des pluies plus marquées sur les régions proches de la Manche et de la Belgique. Un vent sensible sur la pointe bretonne jusqu'à 70 km/h en rafale. Dans la moitié sud, le temps restera calme et plutôt ensoleillé avec des nuages marins dans le golfe du Lion. Un petit mot pour demain, mercredi, c'est la dernière journée de cette
douceur
exceptionnelle. Oui. Maximale demain entre 11 et 19 degrés du nord au sud.
Et après, c'est la dégringolade. Merci
c'est
Nadia. Bah oui, c'est l'hiver. Hein. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
Pile 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Un vaccin pour se déplacer, c'est ça la question qu'on va poser avec les auditeurs. Et nous sommes avec Philippe, bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment, la liberté.
Eh ben on oublie, c'est fini. Je l'avais dit il y a 6 mois, mais ça y est, on y est. Bon. On a une nouvelle devise en France, c'est plus liberté, égalité, fraternité. C'est obéissez, appliquez et silence.
Écoutez, silence non, puisque vous êtes là pour ça. Mais nous en parlerons dans une seconde. Le rappel des titres, Christelle.
L'Allemagne maintient la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni jusqu'au 6 janvier. On verra ce que la France décide, ainsi que l'Union européenne, après l'apparition de la mutation du virus qui le rend plus contagieux. À ce propos, le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine du premier vaccin avec Pfizer, se dit capable de l'adapter à cette mutation, si besoin, en 6 semaines. En France, comme dans toute l'Union européenne, la campagne de vaccination pourra commencer dès ce dimanche. Les premières doses sont stockées dans une dizaine de plateformes logistiques avec des super congélateurs à moins 80 degrés. L'étau se desserre sur les droits de diffusion des matchs de la Ligue. Le retrait de Mediapro est validé par la justice. La Ligue de football récupère donc ses droits TV et va pouvoir les revendre à de nouveaux diffuseurs. RTL avec les étoiles du sport. L'année a été fortement perturbée par la pandémie. Championnat arrêté, Jeux Olympiques reportés. Les athlètes de haut niveau ont dû s'adapter. Aujourd'hui, le témoignage d'Élodie Clouvel, la vice-championne olympique de pentathlon moderne. Elle répond aux questions d'Isabelle Langer.
Bonjour Élodie.
Salut.
Élodie, l'année 2020 a été vraiment spéciale avec cette pandémie. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement ?
Alors c'est sûr que cette année, ça a été une année complètement particulière. Et c'est vrai que je m'étais projetée sur les Jeux Olympiques en 2020. Ils ont relu en 2021, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et cette période-là a permis aussi de prendre du recul, de réfléchir sur plein d'autres choses extérieures au sport aussi. Et ça a été une vraie remise en question. Je pense que ça m'a fait grandir, cette période, même si ça a été difficile au début.
Ça a été difficile parce qu'il y avait des projets quand même. Il y avait ces Jeux Olympiques et puis il y avait envie de concrétiser quelque chose dans votre vie de femme aussi.
Exactement, il y avait cette envie d'avoir un enfant tout de suite derrière les Jeux Olympiques de Tokyo pour pouvoir ensuite enchaîner sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et voilà, ça sera pour 2021 et c'est sûr que les plans que j'avais faits, c'est pas du tout les plans qui vont se faire, mais maintenant j'essaie de vivre l'instant présent et de pas me projeter sur la suite, que c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain.
Il y a eu un premier confinement qui a été long, mais est-ce que vous avez découvert de nouvelles passions ?
Oui, des passions pour la cuisine, prendre le temps de faire les choses, de vraiment ralentir un petit peu mon rythme aussi, qui est vraiment à fond tout le temps. Et ça m'a fait du bien aussi de ralentir, de prendre le temps de faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire, de mettre mon côté artistique, de le développer un petit peu pendant le confinement. Par exemple, la danse, j'ai chanté, j'ai fait plein de choses, de la cuisine, je faisais des vidéos, des photos, enfin je faisais plein de choses et ça m'a fait vraiment du bien.
On est à quelques jours des fêtes de fin d'année. Passer Noël en famille, ça va être important cette année ?
Ça va être très important, d'autant plus que l'an dernier, je ne les avais pas faites en famille, vu que j'étais au Kenya en stage. On avait pris cette décision par rapport à Tokyo, encore une fois. Donc cette année, on va retrouver la famille, bien sûr, avec vraiment toutes les précautions qu'on doit prendre, forcément. Et oui, ça va être un vrai booster pour la suite.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ?
J'espère que ça sera une belle année et surtout que ça sera une année en or cette fois-ci. Et voilà, ça sera vraiment l'objectif ultime le 6 août prochain. J'espère qu'on va se sublimer avec Valentin et qu'on va faire du mieux qu'on peut ce jour-là et être au top pour ces Jeux Olympiques tant attendus qu'on aura attendu 5 ans finalement.
Valentin, c'est Valentin Belot, votre chéri, qui est aussi pentathlète. C'est important d'être à deux dans cette quête olympique ?
C'est important d'être à deux et c'est important de bien se comprendre aussi. Et avec Valentin, c'est ce qu'on arrive de mieux en mieux à faire, c'est d'être ensemble, se compléter, s'élever vers le haut tous les deux. Ça, c'est super important et je pense qu'on le maîtrise vraiment bien aujourd'hui. Voilà, après, quand on a chacun notre compète, on est chacun de notre côté, on sait ce qu'on a à faire. Mais en tout cas, d'être ensemble et soudés comme on est, c'est vrai que c'est une force en plus et j'espère qu'on y arrivera tous les deux vers notre rêve à Tokyo.
Bon, on croise les doigts pour le rêve d'Élodie Clouvel au micro d'Isabelle Langer. Cette chronique est à retrouver sur...